Bonjour à tout le monde. Que la grâce et la paix de notre Dieu abondent pleinement dans la vie de chacun au nom de Jésus. Alors je suis dans la joie de me retrouver là au milieu de vous. Je suis très heureux, amen, de partager avec vous ce matin parce que nous sommes frères dans le Seigneur, parce que nous sommes famille. Et il n'y a pas mieux ailleurs que dans la maison de Dieu, amen. Et donc c'est une joie que je ressens maintenant là et puis... J'espère que cette joie-là, je demeurerai avec cette joie tout au long de ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, vous avez également les salutations de l'église d'Abidjan. Amen. Donc, je dis merci à Dieu pour la vie du pasteur Yvan et de ses collaborateurs et de toute l'église. Amen. Pour le boulot qui est fait en ce lieu. Amen. Vous savez, faire l'œuvre de Dieu avec le cœur. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Amen. C'est vraiment une grâce parce qu'il n'y a pas une chose qui est plus pénible.
Tiens, Roland, on va te donner un micro qui marche.
Oui.
On éteint là.
Merci. Donc, je disais que il n'y a pas un boulot plus éprouvé et éprouvant. Persécuter que l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Et donc nous allons vivre pieusement, peu importe la persécution. Pourquoi? Parce que Christ a déjà triomphé pour nous. Que Dieu bénisse chacun. Amen. Je vais vous inviter à prier avec moi. Tendre Père, nous te rendons grâce. Nous prions ce matin au nom précieux de Jésus. Nous recevons ton esprit. Nous voulons recevoir ta parole. Nous ne voulons pas recevoir les analyses, les propos d'un homme. Mais nous voulons être connectés à ton esprit, que seul ton esprit parle. Et que ce qui est de l'humain se taise au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir nos cœurs, Seigneur, et de nous rassasier de ta présence. Au nom glorieux et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre... de Jean chapitre 1, chapitre 10, autant pour moi. Jean chapitre 10, le verset 1 au verset 6. Jean 10, 1 à 6. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait. Amen. Et j'aime la phrase de fin. Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait. Et ce matin, donc, Christ veut nous enseigner, il veut nous faire comprendre de quoi est-ce qu'il parlait. Et c'est pourquoi Dieu nous permet ce matin de partager sur ce thème, sur cette thématique, ne fermez pas vos portes. J'ai cette habitude et j'aime faire participer le peuple. Donc, je te prie de dire avec moi le thème ou dis à ton voisin à côté, ne fermez pas vos portes. Ne fermez pas vos portes. Amen. Ne fermez pas vos portes. Gloire à Jésus. Alors, Jésus entre dans un endroit où il est à la recherche de ses brebis. Le texte que nous venons de lire met une différence entre les brebis de Christ et les brebis qui ne lui appartiennent pas. Il fait sortir ses brebis. Ses brebis entendent sa voix. Il se met au devant de ses brebis et ses brebis le suivent parce que ses brebis le connaissent. Une chose est vraiment, vraiment, vraiment importante, c'est de connaître son berger. C'est de connaître également sa brebis. Comme l'a dit tout à l'heure le pasteur Yvan, Christ nous appelle à être des disciples afin de former d'autres disciples. Donc c'est une relation de berger à brebis, mais une relation continuelle jusqu'au retour de Christ. Il faut savoir discerner la voix de son berger parmi un million de voix. Vous savez, si les enfants sont en train de jouer derrière une clôture, derrière une maison, et ils peuvent être 10 ou 20, et que la mère de l'un d'entre eux, de l'autre côté de la clôture, appelle son fils, un nom peut-être, un prénom, Christian, vous allez voir que parmi les 20, il y a Christian qui va s'arrêter. Pourquoi ? Parce que Christian a entendu la voix à laquelle il est connecté. Les autres ne vont pas s'arrêter parce qu'ils ne sont pas connectés à cette voix. Cette image, elle est belle. Parce que tout enfant de Dieu doit être connecté à une voix. À la voix de Jésus, premièrement, qui est notre Père, qui est notre guide, qui est notre berger, mais également à la voix de celui que Christ a établi pour nous conduire, pour nous orienter dans le droit chemin. Et il a dit lui-même, personne ne comprenait cela. Alors Dieu veut nous expliquer cela ce matin. Et c'est pourquoi nous allons prendre un autre texte de la Bible. Excusez-nous, mais ce matin, nous aurons beaucoup de lectures pour nous bénir. Jean chapitre 5, verset 1 à 4. Jean 5, le verset 1 à 4. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Par ce test de base, Jésus va nous donner de comprendre le premier test que nous avons lu en Jean 10. On parle ici de la piscine de Bethesda. Bethesda qui est le lieu de miséricorde ou le lieu de grâce. Donc Bethesda signifie miséricorde et grâce. Et notre vie est une vie de miséricorde, une vie de grâce. Donc ce matin, nous sommes Bethesda. Je suis Bethesda. Vous êtes Bethesda. Nous sommes des personnes qui manifestons la grâce et la miséricorde de Christ. Mais la Bible dit que en ce lieu Bethesda, il y avait une piscine. Et dans cette piscine, un ange devait descendre par moment. Il y avait beaucoup de malades. Et c'est le seul malade, le premier qui tombe dans l'eau, qui reçoit sa guérison. Je ne sais à quel moment, à quelle fréquence descendait l'ange. Peut-être une fois par jour, peut-être une fois par mois, je ne sais. Mais la Bible précise qu'il n'y a qu'une seule personne, le premier à toucher, qui reçoit la guérison. Il y avait des guérisons, mais des guérisons vraiment calculées. Alors Jésus va arriver à ce lieu Bethesda. Et quand Jésus arrive, vous connaissez tous l'histoire, un paralytique depuis plein d'années, reçoit Jésus, Jésus parle avec lui, et Jésus lui donne la guérison, lui transmet la guérison, sans même qu'un ange ne remue l'eau, sans même qu'un ange ne descende dans l'eau. Et c'est ce héritage que Jésus nous a donné. Nous sommes Bethesda. Nous sommes la grâce de Christ manifestée au milieu des hommes. Donc les gens aujourd'hui n'ont pas besoin qu'un ange descende pour remuer l'eau pour qu'ils soient guéris. Mais ils ont juste besoin d'être connectés à notre vie pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient transformés. Parce que Jésus vit en nous et nous a donné cette même capacité pour transformer les autres. Mais ce sur quoi je vais m'attarder ce matin, ce sont les portiques, les 5 portiques de Bethesda. Puisque nous sommes Bethesda pour ce jour, les 5 portes de Bethesda nous donne une révélation profonde. Pour que nous soyons capables d'agir comme Jésus, pour que nous puissions manifester la grâce et la puissance de Jésus, il faut comprendre donc la présence de ces 5 portiques qui, ce matin, je vais illustrer en utilisant les 5 organes de sens. Nos 5 sens sont comme les 5 portiques de Bethesda. Et c'est pourquoi je dis, ne fermez pas vos portes. Ne fermons pas nos portes. Nous avons 5 sens qui sont nos 5 portes. Mais ces portes sont importantes parce que Dieu parle de ces choses dans la parole de Dieu. Alléluia. Et la première porte, c'est la porte des yeux, la porte de notre vision, la porte de notre capacité à voir. Et j'aimerais vous partager ce texte biblique dans le psaume 91, le verset 7 à 8. Psaume 91, verset 7 à 8, il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et quelquefois, nous connectons la porte de nos yeux, sur des choses qui peuvent nous distraire, sur des choses qui peuvent nous attrister, sur des choses qui peuvent nous apeurer, sur des choses qui peuvent nous faire pleurer. Alors que Christ est en train de travailler pour nous. Bon, on ne sait pas d'où nous vient une force étrangère qui nous pousse à nous connecter sur des choses qui nous font pleurer au lieu de nous connecter sur des choses qui vont réjouir notre cœur. Alors cette porte, Dieu dit dans le psaume 91, 1000 à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Mais de nos yeux, nous verrons comment il traite les méchants. Nous n'avons pas à combattre, nous n'avons même pas à perdre le temps avec les méchants parce qu'il y a quelqu'un qui combat pour nous. Il y a quelqu'un qui lutte pour nous. Nous, connectons-nous sur sa grâce, connectons-nous sur sa capacité, connectons-nous sur les promesses de Christ pour nous. Quelles sont les promesses de Christ? Je veux parler à quelqu'un de qui Dieu me parle maintenant. J'ai cette pensée. Tu es dans une certaine difficulté, c'est lourd pour toi et tu en souffres et tu pries Dieu, Seigneur, quand est-ce que ça va changer? Mais j'ai une parole de Dieu pour toi, une bonne nouvelle. Le Seigneur dit, maintenant même que tu entends cette parole, le miracle t'est accordé. Maintenant même que tu reçois cette parole, le miracle t'est accordé. Donc il faut enlever les écailles de nos yeux. Ne connectons pas notre porte sur les difficultés, sur les soucis, sur le chagrin. C'était l'histoire d'Abraham. Vous connaissez tous Abraham, notre père dans la foi. Mais Dieu dit à Abraham, prends ton fils Isaac, va le sacrifier à la montagne. Écoutez, combien de parents sont prêts à accepter cela? Combien? Genèse 22, verset 13. Combien de parents sont prêts à accepter cela? Personne. D'ailleurs, Abraham entendait la voix de Dieu. Comme nous autres d'ailleurs. Mais combien de personnes sont prêts? Écoutez, moi, quand je lis ce texte, ça me donne de réfléchir un peu. Il a eu Ismaël avant Isaac. Et il a laissé partir Ismaël parce que, bon, voilà. Vous connaissez l'histoire, Agar mortifiait Sarai. Donc, Sarai a dit à son mari, fait partie de ces deux-là. Il a fait partie, donc il est resté seul, avant les autres enfants bien sûr, il est resté seul avec Isaac. Et Dieu lui dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Isaac qui signifie en hébreu rire. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. 4 fois, Dieu dépeint ici le sacrifice qu'il veut. Comme pour dire que Dieu veut l'équilibre d'Abraham. Parce que 4 peut symboliser l'équilibre, comme sur la chaise sur laquelle nous sommes assis. Donc Dieu veut l'équilibre d'Abraham. Mais quand Dieu veut ton équilibre, c'est parce qu'il a préparé quelque chose de meilleur pour toi. Abraham était rempli de chagrin, de douleur. Mais dans la douleur, il a accepté d'obéir. Il prend son fils, il va à la montagne. Et quelquefois, quand on se concentre sur la douleur, on devient aveugle sur la solution que Dieu a disposée pour nous. Abraham, à cause de la douleur, c'était comme un voile sur sa face. Abraham est monté, il est arrivé à la montagne, il est arrivé, il a mis l'autel. Au moment où il s'apprêtait à tuer l'enfant, Dieu lui dit, hâte, ne porte pas la main sur l'enfant, regarde derrière toi. Et Abraham se tourne, il voit un bélier dans le buisson. Dieu avait déjà mis ce bélier, je vous l'assure, avant que Abraham n'arrive à la montagne. Mais pourquoi Abraham n'a pas vu le bélier? Parce qu'il était voilé par la douleur. Le chagrin et la douleur que nous aimons nourrir en nous, nous empêchent de voir les solutions que Dieu a disposées pour nous. Et c'est pourquoi ne fermons pas la porte de nos yeux par le chagrin, par la douleur. Il faut évacuer. Il faut évacuer. Et la parole de Dieu est un antivirus. Quelqu'un peut dire avec moi un antivirus? La douleur, le chagrin, les humiliations sont des virus. Si vous avez été frustré dans la journée, vous avez été blessé par des propos, vous avez été chagriné par quoi que ce soit d'attitude des hommes, quand vous arrivez chez vous à la maison, priez et ouvrez votre antivirus pour formater votre système. Parce que si vous dormez avec les antivirus, ça va vous donner des rêves bizarres. Amen. Quelqu'un est avec moi, dit amen. Alléluia. Deuxième porte à ne pas fermer, la porte de nos oreilles. Dis avec moi, je refuse de fermer la porte de mes oreilles. Je refuse de fermer la porte de mes oreilles. Et la Bible dit que il y a une chose qui ferme la porte de nos oreilles, ce sont les raisonnements. Dis avec moi, les raisonnements. 2 Corinthiens 10, verset 5. 2 Corinthiens 10, le verset 5 nous dit, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Abraham leva les yeux et vit derrière lui. Non, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. À l'obéissance de Christ. Amen. Donc, nous envoyons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dieu nous dit que nous devons combattre les raisonnements. Vous savez, quand quelqu'un raisonne, il ne peut plus écouter parce que ses oreilles sont fermées. Quand quelqu'un raisonne, il ne peut plus recevoir l'instruction parce que ses oreilles sont fermées. Et quand les oreilles sont fermées, on ne peut plus rien recevoir. Certains chrétiens n'évoluent plus dans leur foi à cause des raisonnements, à cause de ce qu'ils ont mis un blocage dans leur tête. Une certaine compréhension est devenue une muraille dans leur tête. Ils ne peuvent plus écouter, ils ne peuvent plus comprendre. Et quand tu as bloqué ton esprit, même que tu sois devant le plus grand ou le plus expérimenté des chrétiens ou des pasteurs, tu ne pourras rien recevoir de lui parce qu'il y a déjà un blocage dans la tête. Et c'est pourquoi Paul encourage ici à renverser les raisonnements. Et il parle ici, il dit, les raisonnements sont des hauteurs, c'est des murailles, c'est des barrières qui nous empêchent et qui nous rendent captifs et qui nous empêchent de connaître la vérité. Nous devons ouvrir nos yeux à la parole de Dieu. Nous ne devons pas fermer nos oreilles, par les raisonnements. Nous ne devons pas fermer nos oreilles par les portes des raisonnements, mais nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Quelqu'un dise avec moi, amen. Amen. Luc 11, verset 53 à 54 dit, Luc 11, 53 à 54, « Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commençaient à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses. » Lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Vous savez, lorsque nous nous laissons distraire par le malin et que le malin met des semences mauvaises, en permettant ce langage, en nous, nous avons tendance à piéger les gens, comme les scribes le faisaient. Ils cherchaient des pièges dans les propos de Jésus. Donc, ils vont lui poser des questions et chercher des pièges dans les propos de Jésus. Vous savez, on peut enseigner, on peut former, on peut instruire quelqu'un qui a envie d'apprendre. Mais quelqu'un qui n'a pas la volonté d'apprendre ne pourra pas recevoir une instruction. Il cherchera toujours la faille, l'erreur dans le propos du formateur pour lui dire, j'avais dit que ce n'est pas un formateur, voici la preuve, voici ce qu'il dit. Et ça ne commence pas par les hommes, d'aujourd'hui, ça a commencé depuis Jésus-Christ de Nazareth. Les gens, les scribes, les pharisiens voulaient surprendre Jésus dans ses propos juste pour lui tendre des pièges et empêcher son ministère d'avancer, empêcher que Christ n'évolue et que Christ transforme des vies. Il faut que nous refusions de fermer les portes de notre entendement, les portes de nos oreilles, que les raisonnements soient vaincus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi j'aime ce texte d'Ésaïe 1, 19 qui nous dit, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, les meilleures productions du pays ne sont pas seulement la nourriture, mais la relation, les connexions, les opportunités, les grâces, les dispositions que Dieu met pour nous, pour nourrir constamment notre joie. C'est cela qui est englobé dans les meilleures productions du pays. Et il dit, cela est possible pour nous si nous avons la bonne volonté et si nous sommes dociles. Une personne docile, c'est une personne prompte à obéir, prompte à écouter, prompte à mettre en pratique. Jean 13, 17 dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Notre joie vient de ce qu'on sait. Mais plus notre joie vient de ce qu'on met en pratique, ce qu'on sait. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi je voudrais, pour terminer ce point, interpeller tout le monde. Peu importe la cellule dans laquelle tu es, que ce soit au travail, que ce soit en société, que ce soit à l'église, dans un petit groupe, dans un petit noyau de prière, peu importe, si tu as un responsable, ne vois pas le responsable comme un simple homme, mais vois au-delà du responsable Jésus qui est en train de te conduire. Parce que Jésus se met dans la vie de tous les conducteurs afin de diriger tout le monde selon sa vision, selon son but. Donc vois dans la vie de toutes les personnes établies sur toi, vois Jésus est en train de travailler par le canal de cette personne. C'est alors que tu vas réussir en écoutant et en mettant en pratique. Hébreux 13, verset 17 nous dit une chose importante. Hébreux 13, 17 nous dit, Ayez de la considération et de la déférence pour ceux qui vous conduisent dans le Seigneur. Ils doivent rendre compte à Dieu pour l'état de vos âmes. Faites de sorte qu'ils le fassent avec joie. Sinon, le contraire ne vous serait d'aucun. Ne vous serait pas agréable. Sinon, le contraire ne vous serait pas bénéfique, en fait. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, Dieu veut que nous puissions l'écouter. Mais on ne le voit pas. On ne voit pas Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut l'écouter si on ne le voit pas? Et c'est pourquoi il a choisi des gens. Aussi petits qu'ils soient, Dieu les a établis. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que nous sommes l'armée de Christ. Pourquoi le Seigneur compare l'Église à l'armée de Christ? Parce que dans l'armée, c'est l'ordre, c'est l'obéissance. Quand le chef donne un ordre, même si tu n'es pas d'accord, tu obéis. Sinon, tu démissionnes de l'armée. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Dieu nous parle avec son cœur. Ce matin, je suis le premier à recevoir ses paroles. Donc, je suis le premier à être guéri dans ses paroles. Est-ce que vous comprenez bien? Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Ne fermons pas la porte de nos oreilles, mais soyons disposés et disponibles avec un cœur docile et Dieu nous bénira. Alors nous allons pour le troisième point, hein, notre troisième sens, l'odorat. Genèse 27, verset 27. Genèse 27, verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Alors nous savons cette histoire, Isaac a prévu bénir Ésaü. C'était le choix d'Isaac. Mais Dieu, avant la naissance de ses enfants, avait porté son choix sur Jacob. Et Jacob a été entretenu dans ce choix par sa mère. Et le jour venu, où Isaac voulait bénir Ésaü, la mère a tout fait pour porter le vêtement d'Ésaü à Jacob pour que Isaac bénisse Jacob qui est le choix de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, personne ne prendra ta place au nom de Jésus. Personne ne prendra ta place au nom de Jésus. Les hommes peuvent choisir une personne qu'elles considèrent. Mais si toi, Dieu t'a choisi, peu importe la considération et le respect que les hommes vouent à une personne, cette personne ne pourra pas prendre ta place. Au nom puissant de Jésus. Dieu va s'arranger, utiliser des canaux pour que tu occupes la place qui te revient de droit. Et tu l'occupes ce matin au nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, voici que Isaac veut bénir. Rebecca va prendre le vêtement d'Ésaü. Elle va porter à Jacob. Et Jacob va aller dans la présence d'Isaac qui ne voyait plus vieux, avancé en âge, il n'avait plus une bonne vue. Et il va approcher Jacob de lui, il va sentir son odeur. Et quand il sent l'odeur de Jacob, il dit, l'odeur de mon fils est comme un champ que l'Éternel a béni. Regardez l'appréciation qu'il dit. Est-ce que nous pouvons apprécier les gens autour de nous? Est-ce que nous pouvons apprécier les gens même dans les petites choses, est-ce que nous pouvons apprécier? Apprécier quelqu'un est une bénédiction pour elle. Quand tu apprécies quelqu'un, c'est un encouragement. Ne soyons pas prompts à juger, mais il faut apprécier les gens autour de nous. Il faut les encourager. Il faut les encourager, oui, là tu fais du bien, c'est bon, voilà. Il faut apprécier même le peu. Vous savez, un jour, j'ai lu un livre, je ne sais plus qui était l'auteur, mais il a parlé d'une maman qui ne savait pas apprécier son fils. Elle était constamment lui reprocher des choses, lui reprocher des choses, lui reprocher des choses. Et un jour, elle allait à une prière et l'homme de Dieu, elle s'est confiée à l'homme de Dieu après la prière. Et l'homme de Dieu lui a dit, tu sais, dis-moi, dans ton fils, qu'est-ce qu'il fait que tu peux apprécier? Qu'est-ce qu'il a d'honnête en lui? Et je crois qu'elle lui a dit que ce que j'apprécie chez lui, c'est que quand il se lève, il fait sa chambre avant de sortir. Et l'homme de Dieu dit, commence à apprécier ce qu'il fait. Le peu, il fait sa chambre. S'il fait sa chambre, c'est qu'il peut nettoyer la maison. S'il nettoie la maison, c'est qu'il peut être ordonné. Et s'il est ordonné, c'est qu'il peut étudier. Et s'il étudie, c'est qu'il peut réussir. Commence à apprécier le fait qu'il ordonne sa chambre. Si tu apprécies cela, ça va grandir, ça va grossir. Ce qu'on apprécie se multiplie. Ce qu'on condamne nous empêche d'avancer. Et ici, Isaac va sentir l'odeur. Il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Il dit, est comme, ça veut dire, c'est de manière prophétique. Il voit dans son esprit que cette odeur est une odeur qui ressemble à une odeur d'un champ que Dieu a béni. Ça veut dire, quand tu vois quelqu'un, il faut prophétiser sur la personne. Il faut parler, il faut dire de bonnes choses. Il faut avoir une bonne diction vis-à-vis de nos semblables. Il faut les bénir. Il faut les encourager. Il faut prophétiser, il faut proclamer. Ah, j'aime ce texte biblique qui dit en Ésaïe 44, verset 26, il dit, Dieu atteste les déclarations de ses envoyés. Il confirme les prédictions de ses oints. Et tu es oint de Dieu, tu es envoyé de Dieu, parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Ça veut dire, quand tu regardes quelqu'un qui bénit la vie d'une personne, cette personne est bénie parce que la parole qu'il a bénie est connectée au Saint-Esprit. Il faut qu'on apprenne à bénir les gens, à apprécier cela, les gens autour de nous. Si nous n'apprécions pas, nous allons fermer la porte de notre odorat. Or, cette porte doit être ouverte parce que le Christ arrive. Parce que Jésus arrive. Parce que Jésus arrive. Il arrive des fois où on n'arrive même plus à sentir l'odeur. On n'arrive même plus à sentir l'odeur et on devient comme des spirituellement anosmisés. L'anosmie, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à sentir une odeur. Donc, certains chrétiens deviennent spirituellement anosmisés, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent même plus à sentir la bonne odeur, la bonne saveur. Ils ont fermé et donc ils sont constamment en train de ne pas apprécier. On se détruit quand on ne sait pas apprécier les autres. On se construit quand on sait apprécier les autres. J'ai compris par expérience que lorsque Dieu bénit ton voisin, ça veut dire que la bénédiction est dans l'environnement. Si tu sais apprécier la bénédiction de ton voisin, tu es en train de dire à Dieu, je suis apte à recevoir la mienne. Et c'est pourquoi il est important que nous sachions apprécier les gens pour que Dieu puisse nous apprécier. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit dessus en 2 Corinthiens 2, verset 15, l'apôtre Paul dit, « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, nous sommes la bonne odeur de Christ. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose que c'est forcément mauvais. Parce qu'on peut voir un frère parmi ceux qui périssent. La Bible dit, nous sommes la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Donc, dans l'église, on est sauvés. Mais également, on peut voir un frère dans le monde parmi ceux qui périssent. Et puis, mais qu'est-ce qu'il fait dans cet endroit? Qu'est-ce qu'il fait au milieu de ces gens? Mais la Bible dit, il est la bonne odeur au milieu de ces gens. Vous savez, quelqu'un qui a mis un bon parfum de qualité, quand il rentre dans un endroit qui pue, son parfum de qualité a tendance à prendre le dessus. C'est cela. Donc Dieu nous donne un parfum de qualité. Et le parfum de qualité, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi il dit, nous sommes l'odeur de Christ. Donc quand nous allons vers des frères qui périssent à cause de leur attitude, nous allons juste changer leur odeur et les contaminer avec notre odeur. Et vous allez voir que quand ça a une bonne odeur, on aime bien respirer la bonne odeur. Donc quand quelqu'un a une bonne odeur, on a tendance à savoir d'où elle vient. Vous allez voir que le monde qui est en train de périr à cause de notre bonne odeur va nous chercher. Va nous rechercher. Et c'est pourquoi si tu vois un frère en train d'aider certaines personnes, il ne faut pas le condamner. Parce que tu l'as vu quelque part dans un endroit, mais tu ne sais même pas pourquoi il est là-bas. Une année à Abidjan, j'étais avec une servante de Dieu, une sœur en Christ. Et puis, c'était un jeudi soir. Nous sommes allés aux deux plateaux Vallon. C'est un endroit d'Abidjan. À une station. Total, excusez-moi pour la publicité. Et c'était un endroit où se réunissent les prostituées. Et puis, j'ai dit à la servante de Dieu, Ziggy Naomi, elle s'appelle. J'ai dit, servante de Dieu, il faut garer, je vais descendre parler du Christ à ces femmes-là. Elle dit, quoi? Si les gens te voient là, on dirait que tu es venu te prostituer. Donc, en fait, ce qu'elle disait, bon, ça ressemble à quelque chose de bon, voilà. Il faut être prudent et oh, tout cela. Donc, je lui ai dit, oui, mais ce que les gens vont dire et ce que Dieu va dire, je choisis quoi? Moi, c'est ce que Dieu dit de moi qui m'intéresse. Ce que les gens disent, s'ils veulent qu'ils me prennent des photos, qu'ils mettent sur des réseaux sociaux pour dire, on a vu le pasteur parmi les prostituées. Celui qui aura le courage de demander, j'ai dit, j'étais en train de bénir les prostituées. Mais écoutez, quand je suis descendu, elle est restée dans sa voiture, je suis descendu, parce que c'était sa voiture à elle, je suis descendu, je suis allé vers les personnes qui m'ont vu, on connaît Abidjan, quand elle voit, oh, chérie, viens, tata. Et je suis arrivé, et je dis, elles sont venues nombreuses autour de moi, chacune voulait, voilà. Et je lui ai dit, non, en fait, moi, je viens pour vous présenter Jésus, j'ai été direct en même temps. Elle dit, oh, encore eux, les chrétiens. J'ai dit, non, je paye, c'est combien la passe? Elles m'ont dit 5 000 francs CFA, je ne sais pas comment ça fait en euros, 5 000 francs CFA, c'est autour de 8 euros. J'ai dit, bon, je double, j'ai donné 10 000 francs, 15 euros. J'ai dit, 10 000 francs, je te donne les 10 000 francs, mais il faut rester, je vais te parler, il faut m'écouter, j'ai payé l'heure, donc il faut que tu m'écoutes. Alléluia! Gloire à Jésus! Donc, j'ai payé, elle a pris l'argent, elles étaient deux, elles sont assises, les autres étaient parties, bon. Mais j'ai payé, elles m'ont écouté. Quand j'ai fini, j'ai prié pour elles. Elles ont commencé à pleurer quand je priais pour elles. Vous savez, la transmission de l'Esprit de Dieu est toujours quelque chose de fort. J'ai demandé leur contact, ils m'ont donné leur contact. Parmi les deux, il y a une qui a accepté Jésus. Elle s'appelle Cyril. Elle s'est mariée aujourd'hui à un Asiatique. Alléluia. Par la suite, on l'a aidée à l'église. On lui a dit, on peut t'aider à faire du petit poisson braisé, chez nous ça s'est fait, hein, du poulet rôti et autres. On va t'aider. Et on l'a aidée. Elle a fait de l'étalage, elle a commencé à vendre. Casse ton numéro que tous les clients connaissent. Elle a cassé, elle a pris un autre numéro. Elle a accepté Jésus. Mais si j'ai resté dans la voiture pour dire, oh, qu'est-ce qu'on va dire? Je suis parti, j'ai payé l'heure de passage et je lui ai donné l'odeur de Christ. Et l'odeur de Christ l'a transformée. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Enfant de Dieu, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Donc, ne fermons pas la porte hein, de notre odorat. J'espère que c'est dans le temps, je finis rapidement, je suis arrivé à la fin. Et quatrième élément, c'est le goût, notre bouche. Quelqu'un dit avec moi le goût. 1 Pierre 2, verset 1 à 5. 1 Pierre 2, verset 1 à 5. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre goût. Et la Bible dit, si on a goûté Christ et qu'on est convaincu qu'il est doux, si on a goûté à l'amour de Christ, qu'on sait qu'il est doux, chers amis, je vous dis, par les compassions de Christ, il n'y a pas meilleur goût que dans la présence de Dieu. Il n'y a pas meilleur goût que dans la parole de Dieu. On peut lire les livres des plus grands écrivains, chercheurs, quoi, j'en passe. Mais quand tu lis la Bible, tu as l'impression que tu es en train de parler avec quelqu'un. Si on a goûté que Christ est doux, alors accrochons-nous à lui. Ne fermons pas la porte de notre bouche. Si chez nous on dit, quand quelqu'un va en brousse à la chasse et qu'il a trouvé un éléphant, bon, excusez, hein, bon. La viande de brousse, ça c'est. Bon, il mange. Donc, excusez. Si quelqu'un a chassé un éléphant, amen, il a trouvé un éléphant, il ne reste pas seul dans la brousse. Il retourne au village et dit au village, venez. J'ai trouvé, excusez-moi, hein, bon, on ne mange plus, c'est une illustration. Venez, j'ai trouvé la nourriture pour un mois, pour tout le village. Et tout le village vient se servir. Est-ce que vous comprenez bien? Tout le village vient se servir. Donc, si nous avons goûté au bon goût du Saint-Esprit, ne gardons pas la nourriture pour nous seuls. Allons aider les autres à manger aussi, à goûter cette bonne nourriture. Il y a des délices, des mets succulents dans la parole de Dieu. Waouh! C'est doux de manger Jésus. Et c'est pourquoi Jésus dit, mangez mon corps, buvez mon sang. Les gens disent, il veut faire de nous des cannibales ou quoi? Ils sont tous retournés. Pierre dit, Jésus dit, mais pourquoi vous ne les suivez pas? Pierre dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. En fait, nous, on a goûté que tu es doux, mais eux ne savent pas encore. Mais c'est à nous de présenter ce goût. Alléluia, alléluia. Je vois un peuple béni ce matin qui partage le goût du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux terminer ce matin, alléluia. Ne fermons pas notre bouche, parce que goût là, ne fermons pas notre bouche. Ça veut dire que ne fermons pas notre bouche, il faut parler. Il faut parler de Christ, il faut partager Christ pour que les gens puissent goûter à la saveur de Christ. Et le dernier point pour aller vers la conclusion, c'est notre toucher, c'est notre peau. Nous devons être revêtus de la puissance de l'Esprit de Dieu, de sorte que quand quelqu'un nous touche, cette personne reçoive la grâce de Dieu. Quand nous touchons quelqu'un, cette personne est bénie. Quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, et nous sommes des canaux de bénédiction, nous sommes des voyageurs de bénédiction, nous transportons la grâce de Dieu. Quand nous rentrons dans une maison qu'il y a des malades, ils reçoivent la guérison. Quand nous rentrons dans un endroit que c'est bizarre, il y a une transformation. Luc chapitre 6, verset 18 à 19 nous dit, Luc 6, 18 à 19 nous dit, « Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. » Toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Ceux qui étaient tourmentés étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher. Je prie pour toi ce matin par la puissance du nom de Jésus que cette grâce, cette onction te soit donnée pleinement afin que là où tu fouleras les pieds, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait le règne de Dieu qui s'établisse, que des gens soient guéris, des gens soient délivrés, que des gens qui t'approchent soient bénis en t'écoutant, que des gens qui t'approchent soient bénis le fait qu'ils aient échangé avec toi. Quand tu entres dans une entreprise et qu'elle est sur le point de te tomber en faillite, comme on dit, voilà, quand généralement, on dépose souvent chez nous, les gens qui déposent, tu déposes des dossiers dans une entreprise, on regarde, non, bon, on n'a pas envie de toi. Mais quand l'entreprise est en train d'aller en faillite, c'est là qu'on cherche des gens pour travailler. Il ne sait pas, il ne comprend pas. Et même si on te prend comme cela dans une entreprise, ta simple présence doit relever l'entreprise. Parce que nous marchons avec la gouvernance de Dieu. Nous marchons avec le gouvernement céleste. Nous marchons avec le règne de Dieu. Donc là où nous déposons nos bagages, nous déposons le règne de Dieu. Mais demandez à Joseph, il va vous expliquer. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. Qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 39, verset 2 à 3. Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar. Potiphar avait quelquefois des problèmes, il avait des difficultés pour remonter ses activités. Mais la présence de Joseph, même en tant qu'esclave, inconsidéré des hommes, ça ne chasse pas l'onction. Même si des gens ne te considèrent pas, ça ne change pas ton onction. Ça ne chasse pas ton onction. Même si des gens n'ont pas de valeur à tes yeux, tu n'as pas de valeur à leurs yeux. Même si des gens sont en train de te rabaisser, ça ne peut pas faire disparaître la grâce de Dieu dans ta vie. Et vers la fin, la grâce de Dieu dans ta vie va s'imposer à eux. Qu'ils veuillent ou ne veulent pas, l'onction de Dieu s'exprime. L'onction parle et l'onction finit par triompher. Joseph était un esclave, mais sa présence dans la maison de Potiphar a changé les choses dans la maison de Potiphar. Ses activités ont commencé à bouger, ses affaires ont commencé à se multiplier. Potiphar, même un matin, il vient dire, Joseph, il ne comprend pas, depuis que tu es là, tout change. Bon, il est établi maintenant chef de tout le monde. On va t'établir chef au nom de Jésus. À cause de la grâce de Dieu dans ta vie, on t'établira chef au nom puissant de Jésus-Christ. Mais pour tous ces cinq sens que je viens de citer, j'arrive à la conclusion. Apocalypse 3, verset 20. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend, qu'il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Donc Jésus est la porte du cœur de quelqu'un. Il est en train de frapper. Il faut que tu entendes, que tu lui ouvres pour qu'il ouvre les cinq portes de ta vie. Laisse Jésus entrer, avoir accès à ta vie. Il va ouvrir les cinq sens de ta vie. Si tu permets à Jésus d'entrer et de s'asseoir, de dîner avec toi, de souper, mais attendez, Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Un illustre invité. Et c'est lui-même, il vient vers toi. Comme il a dit à Zachée, je mange chez toi aujourd'hui. Lui-même, il veut venir manger chez toi. Tu as juste à prendre la clé que tu maîtrises bien, mets dans la serrure, ouvre la porte. Monsieur, entrez, asseyez-vous. Faites comme chez vous, même si vous n'êtes pas chez vous. Faites comme chez vous. Et Jésus va transformer votre vie. Et Jésus va vous bénir. Il va changer vos limites en force. Il va étendre l'espace de votre cordage. Il va vous accorder la grâce, la joie de Jésus-Christ de Nazareth. Il va vous la transmettre. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que sa grâce vous couvre ce matin. Et je voudrais prier avec vous, si vous me le permettez, en quelques 2 ou 3 minutes, je vais prier avec vous. Amen. Jésus est à la porte de notre cœur. Le Seigneur est à la porte. Et Jésus veut nous bénir. Jésus veut souper avec nous. Jésus veut ouvrir nos 5 portes pour que nous soyons des canaux de grâce, de miséricorde, de puissance et de faveur. Tu vas prier le Seigneur ce matin et dis à Jésus, « Seigneur, voici mon cœur, je te l'ouvre. Entre, Seigneur, et puis prends la place que tu veux, le contrôle total de mon existence, Seigneur, et oins-moi à la dimension à laquelle tu veux me oindre, Seigneur. Remplis-moi comme tu veux, que je déborde de ta grâce, que je sois revêtu de ton onction, que ta puissance me couvre, Seigneur, qu'elle oigne mes paroles, que ta puissance oigne mes mains. Lorsque je toucherai Père quelqu'un, que la guérison lui soit transmise. Lorsque je parlerai à l'oreille de quelqu'un, que la sagesse divine soit entendue. Lorsque je marcherai vers quelqu'un, Seigneur, que la vie soit transmise. Lorsque je parlerai, que la puissance de Dieu soit manifestée. Je prophétise sur ta vie ce matin et j'annonce que ces choses s'accomplissent dans ton quotidien. J'annonce que ta famille soit visitée par la grâce de Dieu. J'annonce dans la société, dans ton travail, dans tes études, quoi que tu fasses, je déclare la puissance du Saint-Esprit. Je déclare le règne de Dieu dans ton quotidien. Je déclare la signature de Dieu sur ta vie, que tu sois marqué par le royaume des cieux et que le royaume des cieux témoigne que tu appartiens à Dieu, de sorte que les gens puissent te voir, mais en te regardant, qu'ils voient la puissance et la gloire de Dieu manifestée au travers de ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Garde cette bénédiction et prospère avec elle au nom de Jésus. Amen.